Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous reprenons la thématique de l'autre fois. J'ai introduit un peu Kappa l'autre fois au niveau très, très gros pour vous donner peut-être un peu une intuition de pourquoi il faut avoir une approche de ce type et qu'est-ce qu'il est. Mais justement, on m'a dit que ce n'était pas trop exact parce que j'ai utilisé des graphes qui ont changé de diapositive à diapositive. Il n'y avait pas une vraie grammaire. Aujourd'hui, nous ferons un peu plus de grammaire. Mais pour récapituler, pour vous rappeler de ce que nous avons dit l'autre fois, la nécessité, quand vous modélisez des systèmes, des interactions moléculaires avec des équations différentielles, vous typiquement modélisez au niveau des réactions, au niveau des molécules. Et quand vous décrivez un système au niveau des molécules, vous devez spécifier tout l'état d'un molécule. Alors, par exemple, ici, j'ai un simple système où j'ai une kinase qui est liée à un substrat, et le substrat a 4 sites où il peut être phosphorylé, et cette kinase phosphoryle est en train de phosphoryler le site nommé 1, le premier site. Mais si vous exprimez cette interaction simple en termes des réactions moléculaires, alors il faut spécifier tous les 8 contextes de l'état des autres 3 sites qui peuvent se produire quand le site 1 est phosphorylé. Alors ça, c'est là que l'explosion combinatoire vous prend. Évidemment, s'il y a une dépendance entre les sites, entre tous les sites, alors il n'y a rien à faire. Alors c'est combinatoire, il faut exprimer ces dépendances, alors il faut utiliser tous les 8 contextes. Mais s'il y a une indépendance, si la phosphorylation du site 1 est indépendante de la phosphorylation ou de l'état des autres 3 sites, alors il n'y a aucune raison d'expliciter tous les contextes. Mais il serait plus utile d'avoir une forme d'expression linguistique où on peut simplement dire la kinase phosphorylise le site 1 et on ne mentionne pas les autres sites parce qu'ils n'ont aucune interférence ou dépendance. Mais si vous faites ça, vous exprimez un schéma, un motif, si vous voulez, et vous n'exprimez plus un molécule. Et alors c'est ça où on fait la transition à la modélisation basée sur les règles. Bien, je vous dis que cette règle, dont nous parlerons beaucoup plus aujourd'hui, sont mises en dynamique, un ensemble de règles, et produit un comportement dynamique du système par une simulation stochastique où vous imaginez que chaque événement possible dans le système est un canal de réaction, un canal d'application d'une règle, et chaque canal a une distribution exponentielle, parce que c'est un principe de la physique, et dans ce cas qu'il n'y a pas de mémoire, à ce niveau élémentaire. Alors chaque canal a une probabilité de se produire, de produire un événement avec une distribution exponentielle. Si vous prenez le premier canon, le canon qui veut se produire au temps plus bref, alors la distribution de ce temps, le premier temps, le temps qu'il passe juste en est à la prochaine réaction, est distribué exponentiellement aussi. C'est élémentaire à prouver, ce sont deux lignes, toutes les propriétés de la distribution exponentielle. Et alors, vous pouvez vous implémenter un cycle de ce type ici, vous avancez le temps, assumez que vous avez un certain état à temps T dans votre mixture, et la mixture contient évidemment des une représentation des molécules, pas des schémas. Les schémas sont dans les règles. La mixture contient une représentation des molécules, du contenu de votre système d'intérêt. Et vous avez ces règles, l'ensemble de règles. Chaque règle a une activité qui est déterminée par un taux. Et je vous rappelle que le taux a une dans le cas stochastique, à une dépendance du volume. Si vous avez une réaction, une règle qui exprime l'interaction entre deux motifs, alors il y a une division par le volume. Si vous voulez convertir le taux déterministique dans le taux stochastique, il y a une division par le volume. C'est simplement, il exprime que le volume, si vous tenez le numéro de particules constant, le volume détermine la probabilité d'une collision. Si vous avez un grand volume, alors il faut, pour deux particules de se rencontrer, il faut la probabilité se décline. Si vous avez un petit volume, la probabilité augmente. Et alors vous pouvez dériver, vous pouvez définir une activité d'une règle qui exactement correspond au flux ou à la vélocité d'une réaction au niveau des molécules, où vous avez un taux de réaction et qui se multiplie avec le numéro de correspondance de la partie gauche de la règle dans votre mixture. Et ça, c'est essentiellement le mass action term. C'est l'action de masse qui s'exprime ici. Et on a dit, je vous ai dit l'autre fois que selon moi, il faut diviser cet numéro de correspondance par le numéro d'automorphismes qui sont de la partie gauche qui sont conservés par la règle. Parce que dans ce cas, les différentes correspondances produisent le même état microscopique. Mais il y a des... Ce n'est pas une religion, c'est une interprétation. Quand vous avez défini cette activité, vous engagez dans cette boucle où vous, un certain temps T du système, vous calculez le temps qui se passe jusqu'au prochain événement qui se calcule dans cette manière-là. Et vous avancez votre temps simulé, le temps du laboratoire, si vous voulez. Après, vous sélectionnez la règle à la base de cette expression ici, c'est aussi élémentaire à dériver. C'est la probabilité d'une règle. Quand nous savons qu'il y aura un événement, la probabilité de choisir une règle particulière est pratiquement l'activité relative de cette règle, relative à la somme de toutes les activités dans le système, qui est l'activité du système. Et vous choisissez une règle, vous l'appliquez, c'est-à-dire vous modifiez maintenant le contenu de votre réacteur. Et de conséquence, certains motifs, c'est-à-dire certaines correspondances aux parties gauches des règles de votre ensemble, se sont produits de nouveau, se sont générés par l'application de la règle ou ils sont disparus. Et alors, il faut que vous recalculez les activités, vous recalculez les correspondances pour recalculer, parce que ce terme ici a changé, vous recalculez les activités et vous retournez dans cette... vous répétez. C'est tout. Alors aujourd'hui, on va donner un coup d'œil un peu plus détaillé à cette plateforme. Alors ici, il y a un essai de vous expliquer un peu l'anatomie des motifs ou des schémas en kappa. Alors peut-être la chose meilleure est de vous concentrer sur les images graphiques et après vous voyez ici la traduction de l'image graphique dans une expression syntaxique linéaire qui est utile pour l'ordinateur. Alors typiquement, ça c'est pas une loi, mais typiquement nous représentons un agent avec comme un nœud, et les sites possédés par cet agent sont représentés comme des nœuds ronde. Et c'est important maintenant d'établir qu'est-ce que c'est l'état d'un site. Et l'état d'un site peut être, dans ce cas, l'état de site est et que le site n'est pas lié, il est libre. Et ça est représenté par un lien à rien. Ce petit nœud noir est un rien. C'est nécessaire parce que, souvenez-vous, et nous entrerons encore en détail plus tard, une règle, la partie gauche d'une règle, le principe d'une règle, est de ne mentionner pas ce qui n'est pas nécessaire pour une action. Alors, dites positivement, vous mentionnez seulement ce qui est nécessaire. C'est-à-dire que ce que vous ne mentionnez, vous ne fichez pas, comment dire. Oui, ça, c'est pas d'intérêt. Et alors, il faut une façon d'exprimer si l'état de liaison d'un site est libre ou si il ne vous intéresse pas. Et alors, il faut distinguer entre ces deux, parce qu'un site aussi peut avoir un état interne, comme ici. Alors, si vous mentionnez l'état interne d'un site, comme ici, l'état est exprimé par un petit triangle et un label, une étiquette arbitraire, ou pour un phosphorylé, par exemple. Alors, si vous voulez mentionner que le site de A, le site X de A, du agent A, n'est pas phosphorylé, est dans l'état OU, alors, évidemment, vous devez mentionner le site. Mais s'il vous n'intéresse pas, si le site est lié aussi à un autre agent ou non, alors vous l'exprimez dans cette façon ici, vous ne dites rien. Mais s'il vous intéresse, s'il est important que le site soit libre, alors il faut le mentionner explicitement. Il faut l'expliciter, il n'y a pas un adverbe d'explicite. Explicitement, merci. Ok, alors c'est pour ça qu'il est nécessaire d'avoir un peu de truc pour exprimer l'absence d'une liaison positivement. Alors, eh bien, ça, ça c'est l'agent a un nom et dans des parenthèses, le nom, vous avez le nom des sites qui sont possédés belong to. Qui appartiennent, merci, qui appartiennent aux agents et l'état de liaison est mentionné dans des square brackets. L'état interne d'un site, c'est-à-dire un état qui n'a rien à voir avec la liaison, est exprimé dans cette curly brackets. Et alors il y a une série de subtilités dans le langage de Kappa pour exprimer un lien sans exprimer l'agent qui est à l'autre côté du lien, etc., etc. Mais ne nous regarde pas maintenant. Ça, ce sont des détails que vous trouvez dans les manuels sur kappalanguage.org. Eh bien, alors ici, vous avez maintenant des agents qui sont liés entre eux. Et exprimer une liaison, vous donnez une étiquette à une liaison, et cette étiquette, c'est pratiquement l'état de liaison d'un site. Et évidemment, ces états de liaison, typiquement des numéros, doivent apparaître en paire, parce qu'il y a toujours deux qui sont liés entre eux. Alors ça veut dire que cet agent A ici est lié sur site X, cet agent A ici sur son site Y. Bien. Alors, l'idée de Kappa. C'est très simple. Si ici vous avez un peu de motif, brièvement, ça veut dire que nous avons un agent A qui a deux. Les sites peuvent être séparés par un comma ou non, ça ne joue un rôle. Alors, ça, c'est un A qui a deux agents, deux sites X et Z qui doivent être libres. Vous voulez que ces deux X et Z soient explicitement pas liés. Dans ce cas, vous avez l'agent A qui a le site X libre et le site Z dans un état, il vous n'importe pas que l'état de ce site Z parce que vous ne mentionnez pas l'état de liaison ou un état interne. Ici, vous voyez comme vous pouvez assigner des étiquettes arbitraires pour peut-être avoir un poids de mnémotechnique dans votre programme. Alors, plus ou moins, c'est la même chose qu'on a vu avant. Bien, les règles. Une règle, typiquement, vous pouvez assigner un nom à une règle. Et après, la règle a une partie gauche et une partie droite. Et il y a une map, un assignement de la position sur la partie gauche à une position sur la partie droite, parce qu'il faut savoir quel agent sur la gauche correspond à quel agent sur la droite. Alors ici, vous avez simplement l'expression d'une liaison. Sur la gauche, vous avez un motif où vous avez deux agents avec un site X. Et le site, évidemment, est local au agent. Alors, ce site X est un site différent de ce site X ici, parce que ça appartient à B, ça appartient à A. Alors, ici, vous exprimez une liaison. Il y a un taux d'appliquer une propensité de la règle à s'appliquer. Cet agent A correspond à la gauche correspond à cet agent A sur la droite. Alors ça, ce n'est pas possible de dire, parce que ça serait l'alchimie, parce qu'ici, vous commutez, vous transformez un agent A, un agent de type A, dans un agent de type C, et ça, ce n'est pas possible dans Kappa. Aussi, ce n'est pas possible, comme j'avais dit à plusieurs occasions, de créer des sites ou de détruire des sites avec des règles. Ça, c'est très différent de la chimie. Parce que si on comprend, je me répète ici, parce que je crois que c'est une distinction importante ici, si l'idée d'un site est d'exprimer une capacité d'interaction, alors les capacités d'interaction des molécules chimiques sont des groupements des atomes, des functional groups, une OH, une hydroxygroupe, un carboxygroupe, etc. Et le changement, la réaction entre deux molécules, typiquement, change ces groupements. Les détruit ou construit de nouveaux groupements qui ont leur activité particulière. Alors, d'un point de vue de site d'interaction, la chimie est toute en fonction de construire et détruire des sites d'interaction. C'est beaucoup plus constructif que dans Kappa, où nous n'avons pas des interactions qui construisent ou détruisent des sites. Évidemment, on peut l'encoder, on peut, mais ce n'est pas une expression naturelle. Et alors, c'est plus naturel d'exprimer en kappa la combinatoire, la construction d'un état, plus que la construction de nouveaux sites. Eh bien, ici, si vous vous exprimez, vous pouvez détruire évidemment des agents, pas des sites, mais des agents entiers. Et alors, dans ce cas ici, vous détruisez l'agent B parce qu'il y a un point dans la location correspondante sur la partie droite. Ça veut dire que le B est détruit et un C est à Paris. Et alors, il est construit. Alors, c'est très simple d'exprimer la destruction et la production des agents. Ça, c'est une règle hybride. Une règle hybride, c'est simplement, vous pouvez aussi changer. Beaucoup de fois, si vous voulez exprimer des interactions moléculaires biochimiques, alors il y a certaines certaines molécules qui ont une grande abondance, comme ATP, etc. Et alors, vous ne voulez pas représenter ces molécules comme des agents, parce que alors vous avez millions et millions d'agents dans ce système, et on peut les exprimer, leur influence peut être exprimée comme des tokens qui sont updated, mises à jour, merci, qui sont mises à jour chaque fois qu'une règle produit un événement. Mais la raison pour avoir ces tokens est qu'ils peuvent influencer le taux, parce que vous voyez dans un moment, les taux de réaction peuvent aussi être exprimés comme des fonctions qui réfèrent à l'abondance des motifs dans le système. Il faut faire attention un peu, parce que c'est devenu assez puissant, et avec la puissance, il y a aussi une responsabilité de l'utiliser kappa dans la manière intendue, parce que il faut éviter de utiliser la puissance pour commencer à encoder, vous voulez représenter vraiment, vous voulez pas, il est inévitable qu'il faut l'encodification jusqu'à un certain point, mais vous voulez utiliser cette plateforme, cette approche pour exprimer un système le plus transparent possible au niveau mécanistique. Alors, il faut éviter de faire de la magie sur la partie des taux de réaction et les transformer dans des fonctions, des taux qui sont des fonctions du système. Vous êtes vraiment mécanistique s'il n'y a pas de taux qui est une fonction, mais où vous avez vraiment une constante. Parce qu'alors, vous exprimez... Ça, c'est le mécanisme et ça, c'est la cinétique. Et vous voulez vraiment essayer de séparer un peu les contributions cinétiques du contribution mécanistique, parce que on verra la prochaine fois quand on parlera de la causalité, cette distinction est importante pour comprendre un système. Et si vous commencez à envoyer de la causalité dans votre taux, parce que vous exprimez les taux comme des fonctions, des motifs, de l'abondance de motifs, alors vous commencez à c'est un slippery slope. OK. Bien, ça, ce sont des exemples de règles. Je crois que vous avez compris bien comment ces règles fonctionnent. Ça, c'est une liaison. Ça, c'est une liaison asymétrique. Voyons si on a compris. Prenons j'ai dit que dans une règle, on mentionne seulement ce qui est nécessaire. Alors, si vous voyez une règle comme ça, elle parle d'un... Supposons que c'est la seule règle dans votre système. Alors, il faut avoir un agent dans votre mixture, l'agent de type A. Quel site a l'agent de type A? Combien de sites a-t-il? Il y a deux sites. Il y a un site X, parce que deux types de sites sont mentionnés dans cette règle, si c'est la seule règle. Alors, l'agent A a un site X et un site Y. Bien? Alors, imaginez que vous avez un agent, et vous avez plusieurs agents, une centaine, un millier, un million d'agents de type A, qui, chaque agent a un site X, un site Y. Et maintenant, vous appliquez cette règle, qu'est-ce qui se passe? Alors, cette règle dit que le site X de A, d'un A, va se lier avec le site Y d'un autre A. Alors, vous avez un dimère entre deux A. Mais ce dimère, est-ce que ce dimère a des sites où il peut interagir avec des autres A? Mais oui, parce que chaque côté de cette dimère, un côté a un site Y libre, l'autre côté a un site X libre. Évidemment, il contient un motif où cette règle peut s'appliquer encore une fois. Alors, vous construisez, vous grandissez cette construction. Alors, vous passez d'un dimère à un trimère, etc. C'est-à-dire, vous construisez des polymères. C'est simple comme ça.
Et on fait des boucles.
Merci beaucoup. C'est la prochaine. Parce que vous avez... Pierre nous rappelle que nous avons appris la fois passée qu'il y a une ambiguïté moléculaire où cette mécanisme dit seulement que pour se lier, il faut avoir un X libre, un Y libre. Ça, c'est le mécanisme. Le mécanisme, il n'importe au mécanisme, si vous l'exprimez comme ça, si les deux A sont dans le même, structure, dans le même molécule, dans votre mixture, où ils appartiennent à deux molécules séparées. Alors, il peut être aussi une interaction, une liaison intramoléculaire. C'est-à-dire, comme Pierre disait, si vous avez un polymère, alors le X d'un côté et le Y d'autre côté peuvent se lier à former une boucle, un anneau. Okay? Alors, c'est important de comprendre. Ça, ce n'est pas possible si vous avez cette règle ici, parce que c'est une dimérisation symétrique. Il faut un X, il faut deux X pour se lier. Et, ça me rappelle une autre chose qui est très, très, très importante. Les sites doivent être différents, doivent avoir des noms différents. C'est-à-dire, l'interface d'un agent est un ensemble. Ce n'est pas un multi-ensemble. C'est différent comme dans la chimie. Dans la chimie, vous avez des sites qui sont équivalents. Par exemple, le carbone a quatre sites, si vous voulez, quatre valences qui sont équivalents. On n'exprime pas ça en kappa. Ça a plusieurs raisons, une raison d'efficience, parce que la calculation des correspondances graphiques de subgraph isomorphisme devient très très simple et très très vite, mais on ne peut pas exprimer équivalence de site. L'autre raison est qu'une équivalence de site, quand on définit kappa, on avait la biologie moléculaire dans la tête. Alors, des sites équivalents dans des protéines sont extrêmement rares. Même si vous avez des domaines qui sont les mêmes domaines dans une protéine, les domaines sont dans un contexte différent où peut-être une mutation ou une autre interaction peut distinguer entre les deux domaines qui, autrement, vus par eux-mêmes, sont les mêmes. Alors, dans le contexte d'une protéine, deux domaines, par exemple, un SH2 domaine ou une kinase domaine ou une phosphotyrosine, ils sont équivalents comme des domaines, mais ils ne sont pas équivalents comme des domaines dans une protéine. Okay? Alors, il n'y avait pas de besoin d'exprimer vraiment l'équivalence entre les sites. Mais ça, ce n'est pas pour la chimie. Eh bien, il n'y a pas de raison d'entrer trop dans les détails. Je crois que vous avez compris plus ou moins que ce qui se passe. Il y a une autre notation. Ça, c'est un peu la notation chimique, avec une partie gauche et une partie droite. Et il y a une notation plus économique, une notation où vous faites des éditions. Oui. Où ici, ça exprime notre dimérisation asymétrique, simplement par montrant le changement à chaque site. Ça, c'est plus économique parce que, autrement, si vous avez la notation chimique avec la flèche, la partie gauche et la partie droite sont très simples et c'est très répétitif. Mais ça, OK. Eh bien, comment on fait une concaténation de chaînes imaginez, par exemple, vous avez dans la biologie, fréquemment, vous avez des protéines qui attachent des ubiquitines. Des pièces de ubiquitine à une protéine pour la marquer pour une destruction avec le protéasome. Et dans ce processus, c'est un processus compliqué, dans ce processus, vous avez fréquemment des E3 ligases qui passent une... Qui, si vous avez un petit oligomère de ubiquitine, elle ajoute un autre oligomère d'ubiquitine. Et ça, c'est exprimé ici, c'est très simple. C'est très simple, évidemment, d'exprimer 2 plus 3, c'est-à-dire lier une chaîne élonger cette chaîne ici par cette chaîne ici, parce que dans ce cas, vous exprimez explicitement les deux chaînes. Mais ça, il faudrait avoir une règle pour chaque combinaison de. Vous voulez une règle pour n plus m, et pas une règle spécifique pour un particulier n et un particulier m. Et alors, c'est possible si vous étudiez cette diapositive. Je ne veux pas prendre trop de temps pour expliquer ça en détail, mais c'est très simple d'exprimer le cas général. Mais si vous faites ça, c'est une autre chose intéressante peut-être qui est démontrée par cet exemple ici. Si vous faites ça, alors il faut que vous saviez, ou il faut que le système, cette interaction sache, où est la fin. Ici, ce n'est pas nécessaire de connaître la fin de la chaîne parce que c'est explicite. Mais quand vous avez une chaîne ici qui a une longueur indéfinie, une longueur m, il faut savoir où est la fin de la chaîne pour pouvoir ajouter l'autre chaîne. Et alors, vous devez définir un site qui est explicitement dont la raison d'existence est de montrer la fin, signaliser la fin d'une chaîne. Et alors, on peut dire oui, mais c'est peut-être seulement une question épistémique, c'est comme vous exprimez, c'est une façon de programmer, si vous voulez, mais je crois que c'est plus que ça. C'est vraiment l'expression que le mécanisme doit savoir où la fin de la chaîne, où est la... Si vous avez un mécanisme général, si vous croyez qu'il y a un mécanisme général pour élonger une chaîne de longueur m avec une chaîne de longueur n, alors le représenter dans cette langage vous force à supposer que le mécanisme doit avoir une information pour localiser la fin de la chaîne à laquelle il attache. Alors c'est une information physique que le mécanisme doit avoir, et c'est exprimé ici par la nécessité d'ajouter un site. Eh bien, nous avons discuté ça, alors passons à notre premier Hello Biology cas. Et ça, c'est l'anatomie d'un modèle, un simple modèle que essaie de modéliser notre réaction de base de la liaison d'un temporaire d'un enzyme avec un substrat, et la transformation de ce substrat dans un produit et la déliaison de protéines. Alors, vous définissez la signature. La signature, c'est la définition d'un agent avec tous ses sites et les états possibles de chaque site. Il n'est pas nécessaire d'exprimer, de décrire une signature parce que le logiciel peut déduire la signature de votre règle, mais c'est utile de la définir parce que typiquement, vous avez des particuliers sites et leur état en tête, dans la tête. Alors ça permet au logiciel de vous signaliser des erreurs, si vous avez des erreurs. Alors ça, c'est la signature. Et alors, vous définissez ici la signature, ça veut dire que nous avons un agent E, l'enzyme, avec un site S, qui peut se lier sur le site E, se lier avec le site E du substrat S. Et ça, c'est le substrat qui a un site E, un site E qui peut se lier avec le site S de l'enzyme. C'est la réciprocité ici. Et il y a un site X où le substrat est modifié, où il peut être dans l'état OU, pas phosphorylisé ou dans l'état P phosphorylisé. Eh bien, vous définissez. Dans ce cas, nous définissons aussi des autres agents parce que ce que nous voulons faire, et nous voulons faire une comparaison entre l'expression de cette interaction d'un enzyme et d'un substrat de façon mécanistique, c'est-à-dire avec tous ces processus, et la comparer avec une situation où nous utilisons un taux de réaction qui est une fonction. C'est la fonction hyperbolique que nous avons vue beaucoup de fois. Quand on suppose qu'on a un excès de substrat, et dans ce cas, on peut simplifier ce mécanisme. Dans ce mécanisme ici, on peut éliminer l'intermédiaire ES parce qu'on assume dans cette condition un état stationnaire de la concentration de ES. Et alors, on exprime typiquement, quand on fait des équations différentielles, on exprime ce mécanisme avec une réaction de ce type ici. Mais on a décomplexifié un peu la situation, parce que si vous faites des équations différentielles, alors il faut éviter la mort combinatoire. Et alors une façon de faire ça est de simplifier ce mécanisme dans ce mécanisme ici au prix échanger un taux de réaction constante avec un taux de réaction qui est une fonction de S dans le système. Okay? Alors, nous allons comparer le mécanisme avec cette approximation qu'on utilise beaucoup de fois dans l'approche classique. Eh bien, c'est pour ça que c'est cette raison que nous définions une autre paire des agents underscore E underscore S comme comparaison. Alors ça, c'est le vrai mécanisme, ça, c'est le faux mécanisme. Et ça, ce sont les taux de réaction. Ça, nous définions une variable, ça, c'est une variable Km, qui est cette constante de dissociation dans cette approximation ici. Et nous avons les règles, enfin. Les règles, c'est un enzyme S, I, et s'attache à ce lit avec un substrat E quand le substrat n'est pas phosphorylisé, c'est dans l'état OU. Et évidemment, le site où l'enzyme se lie doit être libre. Alors ça exprime les conditions nécessaires pour la liaison. Et on peut, et parce que ça c'est une règle réversible, c'est simplement une façon pour éviter de décrire deux règles, une règle dans une direction et une règle dans l'autre direction. On fait ça avec une flèche bidirectionnelle. Et alors il faut avoir deux taux de réaction. Et ça c'est la règle de la modification du substrat une fois que le substrat est lié au enzyme. Et ici, nous avons la règle de comparaison, une règle pseudo, parce que ce n'est pas mécanistique, c'est une règle qui exprime cette réaction ici, simple, sous la supposition que nous avons excès de substrat. Et alors, c'est simplement, oui, c'est l'enzyme qui se lie à l'S, c'est l'underscore, c'est un autre type de comparaison, et il produit... immédiatement le produit est libre l'enzyme. Alors, il n'y a pas une liaison, en fait, c'est simplement l'enzyme qui est un catalyste, et la présence de l'enzyme garantit que ce substrat se transforme de U en P. Mais le taux de réaction, maintenant, est une fonction des schémas, des motifs. Dans ce cas, le motif est le substrat dans l'état unphosphorylé, c'est-à-dire le substrat libre. Mais ça, c'est une application que vous pouvez télécharger de kappalanguage.org. C'est votre petite application. Et vous ouvrez une fiche. Ça, c'est exactement ce que j'ai expliqué. Le logiciel vous donne une petite contact map, une carte qui vous montre les différents agents, leurs sites, l'état possible dans les sites et les liaisons, mais c'est statique. Il n'y a pas de causalité ici, il n'y a pas de règles, c'est simplement un sommaire, si vous voulez. Nous avons 100 enzymes et 10 000 substrats. Okay. Ça dépend de la fréquence avec laquelle vous observez le système. Et c'est comme, exactement comme on veut, c'est-à-dire... Vous voyez ici que le substrat, le complexe entre l'enzyme et le substrat est constant pour un certain temps. Après, il décline, évidemment. Et alors, l'approximation qu'on fait, typiquement, est une bonne approximation. ça, c'est le substrat qui s'en va, ça, c'est le produit qui se produit, et le bleu, qui est la courbe bleue ici, sous le rouge, c'est la courbe mécanistique, et la courbe rouge, c'est la courbe de l'approximation qu'on fait. Alors, dans ces cas, ils sont parfaits, ils sont un sur l'autre. Mais c'est simple, invertir ça, nous avons 10 000 enzymes et 100 substrats, ou peut-être 1 000 enzymes et 100 substrats. Il faut les observer un peu plus brièvement. C'est plus stochastique, mais vous voyez que le rouge et le bleu, commencent à diverger. Et si nous allons à peut-être 1000 substrats et 100 enzymes, 10 000 substrats. Alors ici, vous voyez que ça, c'est l'approximation, et ça, c'est le mécanisme, ce sont complètement différentes. Okay. Alors c'est parce que, évidemment, la supposition de l'approximation n'est pas réalisée. Mais ça, c'est fréquemment le cas dans beaucoup de systèmes biologiques. Bien. Alors, allons voir un modèle un peu plus intéressant, un petit modèle, mais instructif, je crois. En général, quand vous faites des modèles, de la modélisation avec Kappa, c'est comme toujours, il y a des modèles petits, c'est-à-dire avec peu de règles, des modèles moyens, où vous êtes intéressé dans un système avec plusieurs des différents types d'agents, et des systèmes, des modèles très grands. Et je crois que nous toucherons un peu tous trois les cas, pas aujourd'hui, mais dans les prochaines leçons. Quand vous faites les modèles petits que je fais maintenant, commençons de l'autre côté. Quand vous faites des modèles grands, l'intérêt typiquement est dans la dynamique du système, dans le comportement dynamique du système. Et ces systèmes sont typiquement au dehors d'équilibre. Alors, il est nécessaire de connaître ou d'estimer les taux de réaction. Mais il n'est pas nécessaire d'avoir les taux de réaction cohérentes, consistantes d'un point de vue thermodynamique. Parce que beaucoup de réactions seront irréversibles, par exemple, parce que vous approximez le système beaucoup hors d'équilibre. Et vous pouvez faire ça, évidemment, parce que ce n'est pas un problème, parce que vos intérêts sont dans le comportement du système dynamique, dans le comportement dynamique du système. Quand vous avez des modèles moyens, de grandeur moyenne, typiquement, ce que vous êtes intéressé, c'est dans des problèmes, des petits problèmes de concurrence dans les systèmes biologiques. C'est-à-dire, vous voulez étudier un problème de coordination. Alors, c'est peut-être moins... La question, c'est moins d'un comportement dynamique plus qu'une organisation de coordination. Si vous focalisez des systèmes petits, alors typiquement, vous voulez vraiment avoir des taux de réaction qui sont thermodynamiques cohérentes, c'est-à-dire des taux de réaction qui admettent un équilibre thermodynamique, où il y a de certaines, comme on a discuté, on a appris la première leçon, je crois, les taux de réaction ne peuvent pas être tous choisis aléatoirement parce qu'il y a une contrainte. Et la contrainte est que la ratio, pour chaque réaction, la ratio de taux de réaction d'une direction et de l'autre direction doivent être la constante et thermodynamiquement déterminer la ratio par la différence d'énergie entre les réactifs et les produits. Alors, si vous modélez à ce niveau-là, c'est parce que vous voulez, par exemple, vous voulez vraiment faire une enquête vous voulez faire une étude thermodynamique d'un système, même si le système est au dehors d'équilibre. Vous voulez savoir à combien d'énergie il coûte d'être plus précis, de faire une discrimination plus grande, de diminuer le taux d'erreur, combien de temps ça coûte, combien d'énergie ça coûte, etc., etc. Alors, si vous êtes intéressé dans ce problème de trade-off, alors il faut vraiment avoir une représentation thermodynamique. Et nous faisons ça un peu ici pour démontrer un peu un système où nous retournons à ce problème de proofreading, de discrimination entre une, une copieuse qui fait des erreurs et un processus où on peut faire une erreur de copie. Nous avons une chaîne, mais cette fois, ce n'est pas seulement la distinction, une seule distinction, un événement de distinction entre le ligand correct et le ligand mauvais, mais cette distinction doit être répétée parce qu'on veut copier une chaîne de symboles, dans ce cas des agents noirs et blancs. Eh bien, alors, vous avez ce système, plus ou moins, c'est très, très schématique. C'est une séquence. Vous avez une machine qui va de pas, qui voyage sur cette séquence. Et à chaque position, la machine essaie de copier le correct, correct symbole blanc ou noir. Et occasionnellement, elle fait des erreurs, et ça dépend de l'énergie. Pour étudier un système comme ça, typiquement, on veut l'étudier au dehors d'équilibre. C'est-à-dire, on veut que le numéro de monomère, de briques pour copier cette disque noir et blanche, soit constante, même si la copieuse les utilise. Alors ça, on parle d'un réservoir de ces briques. Et comment est-ce qu'on peut implémenter un réservoir? Et ça, c'est il y a de différentes approches pour implémenter un réservoir, parce que le temps vole vite, s'en va vite. Je vais directement au modèle, et après je vous dis comme nous implémentons le réservoir maintenant. Il y a beaucoup de façons pour l'implémenter, mais on fait un choix particulièrement simple ici. Alors, ça c'est notre modèle. C'est un peu plus compliqué de l'enzyme et de le substrat. Alors, nous avons, vous vous rappelez, nous avons cette copieuse. La copieuse ici est l'agent C. Et l'agent C voyage voyage le long cette séquence qu'il faut copier. Alors, ça, ce sont la séquence. Vous pouvez imaginer la séquence ici. Ça, c'est la séquence. Mais on est seulement intéressé à une portion de cette séquence locale où la copieuse se trouve. Et alors, nos monomères doivent avoir certains sites. Il y a un site où on peut se lier, où la copieuse peut se lier avec le monomère, ici. Il faut savoir où nous sommes, où la copieuse est, et il faut savoir où est le prochain monomère, parce qu'il faut se bouger sur le prochain monomère. Et évidemment, la copieuse a aussi une chaîne qui se grandit, parce que la séquence qui a été copiée juste à ce moment-là. Okay? C'est ici. Ça, c'est le contexte. Il y a un monomère. Les monomères aussi ont un type. Le type, c'est blanc ou noir. Que pour visualiser mieux, je le montre comme des disques, plus graphiquement qu'un symbole. Eh bien, alors, le premier pas, un choix qu'on fait ici, est que quand la copieuse fait une évaluation de nouveaux monomères qu'il va incorporer dans la chaîne. Quand la copieuse fait une évaluation de ce monomère, du type de ce monomère, avec le type qu'il faut copier. Alors, c'est blanc, c'est noir, noir. Dans ce cas, c'est un pas correct. Et si ça, c'était blanc, le pas serait incorrect. Et l'énergie de cet état serait différente de l'énergie de l'état d'apparissement correct. Okay? Et le moment que nous faisons cet apparissement, on fait une copie ici, on fait une... c'est un mécanisme d'un seul pas. Il y aura un mécanisme plus complexe plus on l'a. Ça, c'est seulement le mécanisme de base. Alors, quand la copieuse fait un apparissement entre le monomère nouveau qui va élonger la chaîne la chaîne de copie. Il fait l'apparition de cette monomère avec le monomère qui est dans la chaîne originale. En même temps, la copieuse se bouge sur la prochaine position. Alors la liaison entre C et M va se bouger sur le prochain, sur le voisin de cette M ici. Okay? Et évidemment, c'est ça, c'est réversible. Alors, si le monomère se détache, alors la machine va en arrière. Okay? Ici, ça, ces deux cas sont seulement des cas de limite. Ça, c'est pour le cas spécial pour le commencement de la chaîne, où il n'y a pas, où le site left est libre, parce que c'est une terminus de la chaîne. Et ça, c'est le cas où la copieuse est arrivée à la fin, et alors elle détache. Okay. Bien, alors, qu'est-ce qu'on fait peut-être je peux passer simplement à... ça, c'est, il faut être un peu ouais, c'est peut-être mieux si nous allons je vous explique simplement la définition des taux de réaction et vous pouvez regarder les diapositives avec plus calme parce qu'autrement je ne vais pas démontrer rien parce qu'il faut peut-être 15 minutes à expliquer la logique ici. Mais si vous connaissez un peu de thermodynamique, c'est complètement clair. L'idée est que si nous voulons avoir une réaction, par exemple ici l'apparition, la liaison entre A et B, dans un contexte dans lequel B est maintenu à une certaine valeur, c'est-à-dire il y a un réservoir de B, chaque fois qu'un A se lie avec un B, un autre B apparaît de rien. Ou si la réaction va de l'autre direction, un B se libre, le B vient immédiatement résorber par le réservoir. Alors il y a une constante de B. On peut implémenter un réservoir de ce type-là simplement par... réexprimer l'énergie de A dans un contexte, dans une certaine concentration de B qui est maintenue constante par le réservoir. Et parce que le potentiel chimique, c'est-à-dire l'énergie d'une molécule, est donnée par l'énergie de formation de cette molécule, l'énergie intrinsèque, l'énergie libre intrinsèque de cette molécule, combien elle coûte pour la construire des atomes, si on veut, plus une contribution de la concentration de cette molécule. C'est un terme qui est un terme essentiellement entropique. Ça, c'est le potentiel chimique de B. Et si on maintient le numéro de B constante, alors tout le système se simplifie parce qu'on a simplement un A, mais l'énergie de A maintenant dépend de numéro de B, et le numéro de B est maintenu constante. Alors, c'est comme dire que nous remplaçons le taux de réaction de liaison avec un autre taux de réaction qui inclut la concentration de B. Et alors, nos taux de réaction deviennent simplement des taux de réaction entre deux états de A, un état libre, un état lié. Et on a un paramètre qui est ce potentiel chimique de B, qui inclut la concentration de B, qui est maintenue constante, qui devient un paramètre pour, si nous incrémentons ce potentiel, alors on peut bouger la réaction vers la droite, ou si nous l'abaissons, on bouge la réaction vers la gauche. C'est une force motrice, si vous voulez. Eh bien, alors si nous avons cette définition ici de notre système de copie, nous avons les configurations. Vous imaginez la copieuse est en train de faire un apparition Et l'état avant de l'apparissement, c'est notre état de référence, c'est 0. Et après l'apparissement, ça c'est le profil énergétique, cette coordonnée ici sur l'axe de X ne veut dire rien. C'est, si vous voulez, c'est simplement une configuration, c'est simplement la progression de la réaction de cet état à cet état ici. Mais elle visualise un peu, elle visualise ce profil énergétique, visualise les paramètres de notre taux de réaction. Alors vous avez un état où vous n'avez pas d'apparissement encore, vous avez la chaîne jusqu'au moment où jusqu'à la position de la copieuse. Après, la copieuse fait un apparissement entre le monomère dans la séquence originale. Ici, cet apparissement est un apparissement mauvais parce que la copieuse veut y mettre le noir. Alors, c'est une configuration avec une énergie plus haute que la configuration correcte où il met un blanc. OK? L'important est que le taux de réaction d'aller d'ici à ici, il y a 4 taux de réaction. Pour la direction d'élongation d'ici à ici, il y a un taux de réaction pour cette situation ici. Pour la situation correcte, ici, la situation correcte, c'est l'énergie de... ça dépend de l'énergie. C'est une paramétrisation très typique où l'énergie de taux de le taux de réaction dépend de l'énergie de l'état duquel je départ. Alors ici, pour aller ici, je départ de cet état ici. Ça c'est l'énergie ici. Il y a une force motrice. Ça c'est notre réservoir de blanc et de noir. Et ça c'est un paramètre que nous pouvons ajouter pour forcer la réaction. Ça, c'est un paramètre qui nous donne la différence entre la barrière des deux réactions. Une barrière, simplement, si nous augmentons la différence entre les barrières, c'est-à-dire nous facilitons la réaction pour l'incorporation des monomères corrects. C'est un autre paramètre. Et alors, on fait l'incorporation de l'apparissement correct plus vite que d'une direction et l'autre direction parce que c'est seulement la barrière. La barrière affecte toutes deux les réactions de aller et de retourner. Mais ce paramètre ici affecte la réaction, l'échelle de temps pour l'incorporation correcte vis-à-vis de l'incorporation incorrecte. Peut-être c'est la chose plus simple est d'avoir une intuition ici. Nous avons alors une force motrice que c'est le monomère, le numéro de monomère que nous donnons à la copieuse. Plus monomère nous avons, plus la copieuse est poussée à copier. Il y a des taux de réaction pour l'incorporation correcte, l'incorporation incorrecte, qui dépend de l'énergie, de la différence de l'énergie entre la configuration correcte et incorrecte. Ça, c'est pour chaque monomère, pour chaque position. J'ai dit ça. Et on va observer, comme dans une expérience, le taux des erreurs. Il y a deux façons de calculer le taux d'erreur, si vous voulez. C'est le taux, que c'est la probabilité d'être dans l'état stationnaire, d'incorporer un monomère mauvais relatif à incorporer un monomère correct, où il y a une probabilité d'erreur, c'est-à-dire le numéro de, 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 d'incorrect divisé par la longueur de la chaîne, pratiquement, jusqu'à un certain moment. Bien, voyons qu'est-ce qui se passe. Le système est plus ou moins défini, oui. Alors, il faut que nous donnions une chaîne à notre copieuse. Et la chaîne plus longue que j'ai utilisée, c'est 1 million, mais c'est trop grand pour l'application. Mais on peut utiliser la version de la command line de logiciel et processer 1 million d'agents, ce n'est pas un problème du tout. Mais ici, nous prenons une chaîne initiale de 10 000. Et voilà nos 10 000 agents. C'est notre monomère M. Le premier monomère à la gauche a une position libre, évidemment, parce que c'est la fin. À la droite, il est lié au deuxième monomère, qui à sa droite est lié au troisième monomère, etc. etc. Blah, blah, blah. Ici, nous avons blanche, noir, blanche, blanche, blanche. Ça, c'est la séquence, vraiment. Et ça, c'est un état ça n'importe au moment. Je distingue l'état du site gauche de monomère parce que je veux attacher. La première chose que je vais faire est attacher ma copieuse à la chaîne. Et alors, il faut que je l'attache au commencement. Alors, c'est un état ici qui me dit origin pour attacher la copieuse. Il n'y a pas de copieuse dans cette fichier ici. Maintenant, je mets le modèle. OK, alors ça, c'est notre modèle qui exprime exactement ce que je vous ai montré dans les diapos juste avant. Ça, ce sont nos choix des énergies. Typiquement, je suis trop chimiste pour passer je veux avoir toujours calculé dans l'unité de mol. Alors, ce n'est pas KT, mais c'est RT. Et alors, mes énergies sont données en kilojoules par mol. Qu'est-ce qu'on a ici? Ça, ce sont les réactions. J'utilise ici, vous voyez, le truc les tokens. Simplement, j'abuse le tokens ici pour faire des observations. C'est-à-dire, je veux calculer chaque fois qu'il y a une incorporation correcte. Il faut que je mesure le taux d'erreur. Alors, il faut que j'ai quelque chose qui me observe, une variable qui m'observe chaque fois si l'incorporation est correcte ou non correcte. Et je fais ça avec les tokens. Je aussi observe la longueur de ma chaîne. Bien, à la fin de tout ça, nous n'avons pas parlé de ça encore, parce que Kappa also vous offre, ignorez ça, Kappa vous offre un langage pour l'intervention de votre modèle. Par exemple, il y a un petit langage où vous pouvez dire à un particulier temps ajouter ou perturber le système d'une particulière manière, façon, où vous pouvez observer quelque chose. Alors, c'est un langage, c'est un petit langage d'intervention qui est très, très utile. Et alors, notre langage d'intervention dit la première chose que tu fais est d'appliquer une règle extra, et c'est la règle, j'ai une copieuse ici, et c'est de lier ma copieuse à mon séquence qu'il faut copier. C'est tout. Et à la fin, parce que je ne sais pas quand il va finir, alors à la fin, quand j'observe quand la copieuse est arrivée à la fin de la séquence, la copieuse se délie de la séquence originale, et à ce moment-là, j'observe cet état et je dis stop. Ça, c'est son. Eh bien, alors, j'ai fait ce modèle pratiquement avec l'aide de Pierre cette fin de semaine, parce que c'est inspiré à ces papiers de Pigolotti, dans la qui ont, 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 ont ils ont Pugliolotti et Sartori, ils ont traité analytiquement la thermodynamique des erreurs dans un modèle très simple. Et ça, c'est une implémentation dans Kappa de ces modèles. Strictement, il n'est pas nécessaire de faire un modèle computationnel parce qu'ils ont une solution analytique. Mais c'est très intéressant à expérimenter, à faire des expériences avec ce modèle. Et je crois que je voudrais, par exemple, faire des choses qui sont plus difficiles à analyser, comme par exemple avoir plusieurs des machines qui copient une séquence. Alors je veux étudier par exemple s'il y a une interférence entre les machines, s'il y a des traffic jams et des goulets d'étranglement et entre les copieuses, si ça influence le taux d'erreur, etc., etc. Alors, c'est un peu comme avoir un petit laboratoire. Alors, c'est très utile d'avoir un modèle de ce type ici, même si toutes les questions que nous regardons maintenant sont tractables analytiquement. Eh bien, alors, j'ai quelques paramètres. Oui, alors... il n'y a pas de proofreading ici, il n'y a pas de correction d'erreur, il n'y a pas de relecture. Et je ne crois pas que nous avons suffisamment de temps, nous ferons ça la prochaine fois, pour regarder un peu une complexification de ce système où vous avez une relecture, où il y a une relecture de l'apparissement qui diminue, qui abaisse le taux d'erreur beaucoup. C'est un mécanisme de réélecture de Hopfield et de Nino que nous avons vu dans des leçons passées. Eh bien, mais il y a un phénomène intéressant ici à voir. Alors ici, j'ai choisi l'énergie de ma configuration. Alors, notre copieuse, à une certaine position, elle lit blanc. Et alors, si la copieuse, la configuration dans laquelle la copieuse apparaît, le blanc avec une autre blanc, alors c'est une configuration bonne. Elle a une énergie de minus 20 kilojoules. Alors, c'est une énergie très bas. Si l'apparition est mauvais, c'est une énergie de moins. Alors, c'est une énergie plus haute. Okay. Alors, nous avons clairement un favorisement thermodynamique. Et vous savez, si vous vous souvenez, si vous vous rappelez du petit schéma le taux d'erreur dans un cas d'un seul pas d'apparissement, le taux d'erreur est exactement le taux d'erreur meilleur, c'est-à-dire le taux d'erreur plus bas réaliser, c'est l'exponentielle de la différence de l'énergie entre l'état mauvais et l'état bon. Okay, alors, dans ce cas, le taux d'erreur serait l'exponentielle c'était l'exponentielle de 19 plus 19... minus 19 divisé par RT. C'est un taux très bas, exponentiel de minus 19, parce que ça, c'est une différence d'énergie très grande. Alors, si on est en principe, c'est une discrimination très effective avec cette énergie. Voyons qu'est-ce qui se passe. Alors, je vous montre est une courbe que nous donne à chaque moment, je calcule, j'observe le numéro d'erreurs que j'ai fait et la longueur que j'ai achevée. Parce que la machine peut aller en arrière, avant, etc. Alors, tous ces numéros doivent être mis à jour. Chaque fois, alors, clairement, ce n'est pas un taux instantané, c'est-à-dire si, c'est un moyen. Et le moyen devient meilleur et meilleur, et moins noyeux, noisy, bruité. quand la longueur de notre chaîne grandit. Okay? Bien. Alors, nous avons pas de, il n'y a pas de différence entre les barrières de la configuration mauvaise. C'est seulement la différence d'énergie de l'apparaissement. Et c'est 10 000. Elle a déjà fini, seulement pour... Ça, c'est la longueur. Clairement, ça, notre machine a une, est longue, la séquence linéairement, et elle arrive à 10 000. Alors, nous sommes vraiment arrivés à 10 000. Nous avons parfait. Et qu'est-ce que c'est l'erreur? La probabilité d'erreur ici. OK. Alors, c'est du bruit au début. Et alors, on arrive à un taux d'erreur de 42%. Ça, c'est mauvais, hein? 42%, c'est comme faire c'est lancer les dés. Et même si nous avons une différence d'énergie entre de 19 kilojoules. Alors, c'est très mauvais. Pourquoi? Pourquoi ça se passe? Peut-être il faut abaisser l'énergie de la configuration bonne encore plus. Voyons. Alors, l'abaissement à 6, à 60. Alors ça, c'est une grande différence. Et nous, un peu mieux, mais toujours 40%. C'est vraiment mauvais comme. Oui, alors, voyons ce qu'on fait. Peut-être, on retourne à 20, peut-être il est mieux que l'énergie de la configuration mauvaise est plus haute encore. Alors, mettons-la positive. Mettons-la à 10. Maintenant, on parle. Nous sommes descendus à 1%. Ça, c'est pas mal. C'est toujours des ordres de grandeur du optimum qui peut être réalisé. Mais c'est beaucoup mieux de 42% d'erreur. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons simplement changé le signe de l'énergie d'une configuration mauvaise. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être c'est très instructif de regarder de contempler la situation séquente. Nous mettons l'énergie de notre copieuse, des configurations mauvaises et des configurations bonnes, à zéro. C'est la même énergie, il n'y a pas de différence entre les énergies. Zéro. Zéro aussi, ça veut dire que l'équilibre entre être incorporé et ne pas être incorporé pour un monomère devrait être le même, le 50-50 d'être incorporé ou pas. C'est la même probabilité d'être incorporé ou pas incorporé. Alors, est-ce que vous croyez que dans ce cas, quand nous avons, c'est-à-dire nous n'avons pas l'incorporation, quand l'incorporation nous donne une configuration, nous abaisse l'énergie, parce qu'une configuration bonne a une énergie basse, ça, c'est comme une force motrice pour la polymérisation. Okay. Alors, maintenant, nous avons, d'un point de vue énergétique, des énergies libres, propres, de standard potentials, des configurations, nous n'avons pas de différence. Est-ce que vous croyez que la séquence grandit ou ne grandit pas, la séquence qui va se copier, qui la copieuse? Parce que si nous avons, clairement, si nous avons c'est-à-dire l'incorporation est neutrale d'un point de vue énergétique, neutre. Alors, peut-être il est surprenant que si l'énergie est neutre, le taux d'erreur est toujours 50%. C'est un grand taux d'erreur, évidemment, parce qu'il n'y a pas de différence entre... Il doit être 50%. Mais nous avons réussi, un très bref temps, à élonger la séquence, la copie. Pourquoi? Et un taux de... Et une vélocité, pas mal, une vélocité de 10 nucléotides par seconde, même si l'énergie, la différence, il n'y a pas de différence d'énergie entre être incorporé et pas être incorporé. La raison est l'entropie. Ce qui fait si que la séquence grandit est simplement le fait que vous avez deux choix pour aller en avant, un choix mauvais, un choix bon. Dans ce cas, les deux choix n'ont différence énergétique. Alors, c'est comme il n'y a pas de mauvais et de bon d'un point de vue énergétique. Il y a deux choix. Il y a un seul choix pour aller en arrière. Et c'est-à-dire que vous avez une force motrice entropique de exactement R, la constante de gaz, multipliée par le logarithme de 2, parce que vous avez deux choix, dans le cas de zéro énergie. C'est-à-dire, je ne sais pas maintenant, il faut avoir un calculateur R times log 2. Maintenant, il faut avoir l'énergie et il faut aussi avoir la température. C'est R par T par le logarithme de 2. A T, c'est 200, c'est à 25 degrés en Kelvin. Par R, qu'est-ce que R, nous avons eu R. Dans ici, R, un kilojoule, c'est ça. Oh, ça, c'est R, exactement. C'est comme ça. Et tu as le logarithme. Et après, c'est simplement 2. Ici, multiplié. Ah, OK. Alors, c'est 1,72 kilojoules de force motrice seulement par l'entropie. Alors, si nous prenons une force motrice, si nous ajoutons notre force motrice avec moins 1,7, c'est comme compenser pour la force motrice qui vient de l'entropie. Faisons ça à 1,7, c'est le driver, moins, parce que nous avons contre. Alors, l'idée, nous n'avons pas des énergies ici, des différences d'énergie. Alors, tout ce qu'on devrait observer ici est que notre copieuse fait une marche aléatoire et n'arrive jamais à la fin, parce que si vous commencez à zéro, pour arriver à 10 000, ça veut du temps. Qu'est-ce qu'on fait ici? Ah oui, le point. OK. Ça, c'est la longueur. Hein? C'est notre marche aléatoire. Elle va finir jamais. Parce que maintenant, vous savez, nous sommes arrivés à 1000, maintenant à 980, etc. Ça, c'est la longueur ici de notre chaîne. Ça, c'est une marche aléatoire, parce que maintenant, nous avons plus une force motrice, nous avons compensé la force motrice de l'entropie, du fait que nous avons deux choix. Ce n'est pas seulement une choix entre deux, une fois, c'est un choix entre deux possibilités pour 10 000 répétitions. C'est ça qui... Et maintenant, ça, c'est exactement le royaume réversible. Alors, si nous, maintenant, et ça, c'est une seule minute, si maintenant nous, avec cette compensation, si nous mettons une différence d'énergie maintenant, moins 20 et moins 1, ce que nous avons eu en avant, où nous avons fait un taux d'erreur de 42%. Maintenant, nous avons pas seulement la force motrice de l'entropie, mais aussi la force motrice. C'est ça l'explication, c'est ça pourquoi le taux d'erreur était si mauvais. Parce que si vous avez le taux d'erreur est optimal dans ce cas ici, si vous êtes réversible. Si vous avez pas, si l'avancement de la copieuse, la vélocité de la copieuse est le plus lent possible, c'est presque faire une marche aléatoire. S'il fait une marche aléatoire, à quelques points, elle arrive à la fin, mais le taux d'erreur est le meilleur possible. C'est l'exponentielle de la différence d'énergie. Mais alors, il faut qu'on va très lentement. Et pour aller très lentement, il faut compenser maintenant par la force motrice qui n'est pas seulement l'entropie ici, dans ce choix, mais c'est aussi le fait que la réaction veut aller dans la direction de polymérisation, parce que ça, c'est une énergie très, très, très basse. Et alors, il faut compenser pour ça. Et je crois que la compensation est approximativement 20, ou quelque chose comme ça. C'est facile à calculer, c'est toujours le logarithme de l'exponentielle de l'énergie mauvaise plus l'exponentielle de l'énergie correcte. et tout ça multiplié par RT, parce que si les deux énergies sont zéro, ça somme à 2, ce que nous avons eu en avant. Mais c'est peut-être, oh, ouais, oui, nous avons la mathématique, pourquoi pas. OK, ça c'est une compensation pour la force motrice de l'entropie et de la polymérisation. Ici. Eh bien, voyons. Oui, c'est trop lent maintenant. Il faut attendre, diminuons un peu, peut-être 19. Oui, on est arrivé à 10 000. Oh, je vois. Is this a right observation rate? Mais en tout cas, c'est on arrive à la fin. Mais si j'ai le taux d'observation correct, alors vous voyez que nous sommes vraiment à un taux d'erreur qui est à 0,000, un taux d'erreur qui est très 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 bas, parce que maintenant nous avançons très lentement. Et alors la discrimination est très effective. Bien, je veux finir comme ça. La prochaine fois, nous étudierons un peu, nous finirons un peu avec la relecture des erreurs pour un mécanisme pour aller plus vite, mais fois et faire moins des erreurs, mais à dépense d'énergie, parce que maintenant nous ne dépensons aucune énergie. Il y aura un sujet très, très passionnant, je crois. On commencera à parler de la causalité. Et je crois que c'est un sujet très, très intéressant. Bien, merci.